Attention, petite sagesse du jour grâce à Yogiti. Cette vie est un cadeau. Salut, c'est Louise Petrouchka.
Et salut, c'est Clément.
Et vous écoutez bien le son d'après. À toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode 73 du son d'après. Je suis Louise Petrouchka et je suis en compagnie du meilleur binôme de la planète, j'ai nommé Clément.
Salut.
Comment vas-tu?
Écoute, très bien.
On est en pleine forme.
Bah ouais, grave. Oui. Non, en plus, et puis je suis très content d'enregistrer aujourd'hui, de parler des artistes dont je vais ramener. Enfin voilà.
Des artistes dont tu vas ramener.
Ouais, voilà. On se comprend. Les artistes que j'ai choisis.
Oui.
Spécialement pour cet épisode 73. Cet épisode. Voilà.
Moi, je suis ravie. Dehors, il pleut. Il y a des tisanes autour de la table. L'automne est là. Donc, tout va bien.
Et voilà. On enregistre dans nos petits chaussons.
Exactement. Ouais. Avant de commencer cette émission, vous le savez, je vais vous faire les petits recos habituels. Vous savez qu'on va vous présenter 4 morceaux aujourd'hui de 4 artistes différents. Tous les morceaux seront dans les playlists du son d'après qui sont dispo sur Deezer, YouTube, Apple Music et Spotify. Si vous cherchez des noms d'artistes ou des noms d'albums ou de producteurs qu'on aurait mal prononcés à tout hasard, ça sera dans les notes du podcast en description. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous abonner si c'est la première fois que vous écoutez sur toutes les applications de podcast, que ça soit Apple Podcast, Castbox, Podcast Addict, Pocket Cast et j'en passe. Et si ça vous plaît et que vous nous écoutez depuis un moment, vous pouvez mettre des étoiles et des commentaires, notamment sur Apple Podcast et Spotify, et puis nous suivre sur Instagram, Twitter et désormais TikTok afin d'avoir les sorties de les notifications de sortie d'épisodes. Voilà,
tout à fait,
c'est ça
exactement
que je cherchais.
Vous pourrez rien rater grâce à tout ça.
Exactement. Donc ceci étant dit, on peut commencer cet épisode et Clément, c'est toi qui nous ramène un artiste que tu aimes beaucoup.
Exactement. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de James Litherland, dit James Blake. Alors bon, il est fort à parier que je vous le fais pas découvrir. James Blake, il occupe le terrain musical maintenant depuis une bonne dizaine d'années et il a fait que gagner, j'ai l'impression, en popularité. En tout cas, c'est vraiment moi, ma perspective. On l'a vu ces dernières années beaucoup collaborer avec des artistes de renom, à savoir voilà, aussi prestigieux que Travis Scott, Beyoncé, Frank Ocean, Kendrick Lamar, Rosalia. Voilà, donc c'est le genre d'artiste que j'ai envie de qualifier, c'est d'un peu hype, qui est devenu petit à petit un peu plus mainstream, sans jamais non plus se renier.
Vendre son âme au diable.
Voilà, mais tu sais, il a quand même, j'ai l'impression qu'il bénéficie de cette aura un peu d'esthète.
Ouais.
Tu vois, cette petite touche comme ça. Lui, initialement, il commence la musique enfant en apprenant le piano classique. Et c'est adolescent qu'il a une révélation pour la musique électronique en découvrant la dubstep. Si j'ai envie de vous parler de James Blake aujourd'hui, c'est pour plusieurs raisons. Déjà, parce que cette année, j'ai beaucoup réécouté sa discographie, en cela qu'il faisait partie des artistes qu'on avait un peu shortlistés pour faire partie de nos épisodes Versus de l'été, tu le confirmeras.
Tout à fait.
Et du coup, voilà, j'avais tout réécouté un peu pour l'occasion, pour mettre un petit peu dans le bain. Bon, il se trouve finalement, il n'a pas été sélectionné, ouais. Mais moi, ça m'a fait quand même très plaisir de réécouter tout ça. À la suite de ça, il se trouve qu'il a sorti en fait un nouvel album en septembre dernier, album que j'ai fortement apprécié et qui m'a ramené un peu au James Blake des débuts. Mais ça, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Parce que oui, moi je veux pas faire l'ancien ou le prescripteur, mais James Blake, je le suis vraiment depuis ses débuts. Je le découvre avec son premier single Limit to Your Love, qui est une reprise de Fest, avant que ne sorte du coup son premier album. Donc ça c'était vraiment le premier single qu'il avait sorti. Il invente en fait un peu à ce moment-là une sorte de soul blanche avec une voix assez inimitable et le tout produit vraiment sur des productions assez froides et planantes. Clairement, le morceau moi m'interpelle à l'époque et je décide alors d'écouter un peu plus ce qu'il avait sorti. Et je découvre son précédent EP qui s'appelle CMYK. Et là, c'est le choc. Pour le replacer un peu dans le contexte, on est donc en 2010-2011 et je me prends un coup de foudre de son que je vous expliquerai juste après qu'on écoute du coup le morceau éponyme de ce projet. Look, I found her. Damn. Red coat. Look, I found her. Look, I found her. Red coat. Look, I found her. Look, I found her. Damn. Red coat. Look, I found her. Look, I found her. Red coat. Look, I found her. Look, I found her. Damn. Red coat. Look, I found her. Damn. Look, I found her. Damn. Red coat. Look, I found her. Damn. C'était James Blake avec le morceau CMYK. Je me tourne vers ma binôme préférée et je suis très curieux de, voilà, de connaître ton avis, savoir ce que tu en as pensé. Parce que bah, c'est vrai que j'ai quand même fait le choix de partir sur vraiment un vieux morceau de James Blake. Ouais. Mm-hmm. Je suis curieux de savoir qu'est-ce que tu penses de, voilà, de ça.
Eh bien, je dirais que c'est pas nécessairement ce que je préfère de James Blake. Parce que je crois que moi, ce que j'aime bien, c'est l'entendre chanter. Donc, ça me plaît, mais c'est... Ça aurait pas été mon choix s'il fallait choisir un morceau de James Blake. Et j'étais en train de me dire, tiens,
qu'est-ce que tu aurais choisi, toi?
Qu'est-ce que j'aurais choisi? Qu'est-ce qui m'a marqué dans la discographie de James Blake et tout? J'avoue, moi, le dernier album, je l'ai pas trop écouté. Je l'ai écouté une fois. Mm-hmm. J'ai fait une première écoute qui m'a pas convaincue à 100%. Et du coup, j'ai pas été diguer beaucoup plus loin. Mm-hmm. Mais bon, moi, je pense, en fait, comme tous les gens qui ont à peu près nos âges et qui ont connu James Blake... rapidement, c'était sur son premier album. J'ai souvenir d'avoir peut-être écouté, mais en tout cas, j'ai les singles en tête. Tu vois, il y a le Willem Scream que je connaissais. Il y avait le morceau que tu citais tout à l'heure.
Limitor Your Love.
Voilà. Ouais. Je pense que celui qui fait mouche, c'était Retrograde sur l'album d'après, en 2013.
Ouais. Bah, je crois que c'est son morceau d'ailleurs le plus populaire, je crois.
Ouais, ça ne m'étonne pas. Mm-hmm. Parce que j'ai souvenir que vraiment, c'était un morceau genre... historique, quoi. C'était genre, attendez, mais ce gars, c'est un truc que personne n'a jamais entendu, c'est fou. Je remonte là un peu la discographie de James Blake et je me rends compte qu'en fait, il y a vraiment un seul album que j'ai beaucoup écouté et j'en ai déjà parlé ici, je crois. C'est Assume Form qui est sorti en 2019, qui est vraiment une masterclass. Hein,
Et puis, je pense que c'est celui, mais ça.
Qui est peut-être le plus,
plus
abordable.
Pop, ouais, je suis d'accord. Entre guillemets, je pense. C'est là aussi où il y a quand même des grosses feats, Travis Scott,
Rosalia,
André 3000. Enfin voilà, c'est vrai qu'il y a des invités de prestige là-dessus et je suis d'accord. En tout cas, c'est certainement celui qui me paraît être le plus. Mais ouais, oui, c'est ça le plus pop, on va dire.
Ouais, mais même,
c'est
tu vois, genre le Overground, j'ai souvenir de l'avoir écouté et bon, c'est pas un truc que t'écoutes tous les jours parce que c'est vraiment triste. Donc j'avoue que, tu vois, c'est des trucs que j'ai souvenir de les avoir écoutés, mais c'est pas non plus des trucs vers lesquels je retourne souvent, quoi.
Je comprends. Eh ben écoute, moi, si j'ai choisi ça, ce morceau-là, c'est pour plusieurs raisons. En fait, que déjà, pour revenir juste sur le morceau qu'on a écouté, moi, je me souviens que quand je découvre ça, j'entends vraiment... une liberté folle de faire de la musique. Il y a quelque chose, j'ai l'impression au premier abord que ça suit aucune règle préconçue, tu sais, que c'est rempli d'instinct, presque d'improvisation, alors pourtant c'est de la musique électronique, et c'est ça moi qui m'interpelle, tu vois, c'est une musique électronique, ça se construit couche par couche, de manière assez méthodique, tu vois, c'est une sorte de Lego de la musique.
C'est assez logique.
Voilà, et quand t'entends, je trouve le résultat, ça donne pas du tout cette impression... ouais, justement, très mécanique. Je trouve qu'il y a vraiment une sorte de folie, et ça, j'aime beaucoup. J'adore le mélange de textures sonores, de rythmiques. Voilà. Je pense qu'en plus, je sortais d'une période de ma vie où j'avais énormément écouté de trip-hop. J'étais biberonné à DJ Shadow, à Wax Taylor, dont j'aimais beaucoup ce travail sur la boucle, sur le côté hip-hop, les utilisations de samples. Et bah là, tu retrouves un peu ça, mais je trouve avec une sorte de créativité un petit peu supérieure, tu vois, où ça part justement, ça se permet plus de folie. Et d'ailleurs, j'en ai jamais vraiment parlé ici. Vous savez, j'aime la musique maintenant, hein, mais j'en ai jamais fait, tu vois, j'en ai jamais fait. J'ai gratouillé sur une guitare des reprises de Blink 182 ou d'Oasis quand j'étais au collège, mais j'étais jamais allé vraiment tellement plus loin que ça. Et je me souviens vraiment, à l'époque, quand je découvre James Blake et particulièrement ce morceau-là, ça me fait hésiter vraiment. Tu vois, c'est en écoutant ce morceau-là où j'ai envie de m'y mettre. Je me dis tout d'un coup, bizarrement, ça me paraît accessible.
Ouais. Tu as téléchargé Logic Pro et hop.
Bah, je crois que c'est un peu l'impression que ça me donnait parce que tu sais, c'est aussi beaucoup de sons très très électroniques. Tu vois, c'est vrai que typiquement, j'aurais pu avoir cette impression-là sur un Bonobo, par exemple, que j'ai beaucoup écouté. Mais Bonobo, il utilise quand même beaucoup de
cordes
organiques et tout, et donc forcément, ça me paraît, tu vois, ça paraissait inaccessible. Là, quand j'entends ce morceau-là, bah ouais, bizarrement, je me dis tiens. Je crois que j'aimerais faire ce genre de musique. Mmh. Et c'est, tu vois, et du coup, ce morceau est resté aussi ancré dans ma mémoire comme, tiens, si un jour je fais de la musique...
Ça sera dans ce royaume.
Ouais, je crois que c'est ça. Alors certainement que, tu vois, j'ai évolué depuis et je me suis jamais vraiment reposé la question parce que, bon, no spoil, j'ai jamais eu la patience de totalement creuser ça et...
Et c'est pas trop tard, hein. Peut-être que tu vas te réveiller à 45 ans.
Exactement.
Et te dire genre bah c'est maintenant.
On sait jamais, mais voilà, tu vois, c'est pour ça que ça me tenait à cœur de parler de ce morceau-là et de James Blake, parce que il s'est resté ancré dans un coin de ma tête de tiens, si je fais de la musique un jour, je crois que j'aimerais que ça ressemble un peu à ça. Et pour revenir du coup à James Blake, depuis que j'ai découvert sa musique, je trouve qu'en fait il a vraiment quelque chose, un peu de l'ordre du génie, ce James Blake, tu vois. Et pourtant...
allez, les grands mots.
Ouais, ouais, ben je crois qu'il y a un peu de ça quand même. Parce que du coup, je fais cette découverte-là, ce sentiment un peu enthousiaste se prolonge avec la sortie de son premier album. Et ensuite, j'ai eu un rapport plutôt contrasté avec ses sorties. J'ai ce rapport, en fait, où t'as tellement aimé les premiers sons d'un artiste que systématiquement, t'es un peu déçu, tu sais, de ses autres sorties. À 2-3 exceptions près, tu vois, sur une forme, je me souviens que je me le prends le truc directement. Mais ouais, j'ai toujours plus adoré, en fait, le James Blake qui accélère un peu les BPM. Si bien que bah, quand il sortait des choses plus calmes, plus mélancoliques, tu l'as dit, tu vois, ça peut être...
Rétrograde, c'est bien mélancolique.
Ouais, exactement. Et ben, en fait, il y avait quand même une petite partie de moi qui disait, bah, c'est un peu chiant, non
Ouais, je vois.
Même si tu sens que c'est fait avec beaucoup de minutie, tu peux pas dire que c'est mal fait, quoi. Mais voilà, ouais, il y avait ce côté. J'aime bien quand t'envoyais un peu plus la sauce, quoi. En réalité, après avoir tout réécouté cet été, c'est vraiment tout est très bien, en fait.
Oui.
J'ai vraiment réécouté même les albums que j'ai finalement peu réécoutés. Ouais. C'était juste un regard un peu biaisé par l'amour des premiers émois avec sa musique. Je trouve qu'il y a une qualité de fou dans sa musique. Et si par contre, du coup, je vous dis tout ça. Et ce qui m'a poussé du coup aussi à vous parler de James Blake aujourd'hui, c'est qu'en écoutant le dernier album qu'il a sorti, qui s'appelle Playing Robots into Heaven, j'ai eu le plaisir en fait de réentendre un James Blake qui revient, je trouve, à ses racines, plus électronique, plus instrumental, et qui va chercher du coup dans des influences de musique de club très anglaise comme la dubstep ou la jungle. Il y a aussi un très bon morceau two-step où il reprend le refrain de Pharrell Williams sur le morceau Beautiful avec Snoop Dogg. Okay. Ça c'est très bien fait. Je sais pas, il y a un ensemble qui est quand même plus sombre, vraiment plus fait pour en fait, je trouve, des dance floor, des soirées berlinoises, quoi. Et même s'il y a des morceaux plus mémorables que d'autres, tu vois, sur l'album, vraiment j'ai trouvé l'ensemble très réussi. Là je l'ai pas mal réécouté du coup en préparant l'émission, et je suis très agréablement surpris, et je lui tire un coup de chapeau d'être revenu, je trouve, à ce genre de musique. Lui qui, je trouve, j'avais l'impression en tout cas qu'il avait les bras de la pop qui lui tendait les bras, et bah j'aime beaucoup qu'il revienne à tu vois, peut-être ses racines, alors sans faire le vieux con, hein, tu vois, mais je pense que ça fait vraiment partie de l'identité de James Blake. Donc, pour prolonger l'écoute, j'aimerais vous recommander l'EP CMYK, mais il est plus disponible sur les plateformes de streaming, va savoir pourquoi, donc vous pouvez quand même le trouver sur YouTube.
Peut-être des brumes de samples.
Je sais pas, j'ai du mal à comprendre, parce que je sais qu'il y était encore il y a pas si longtemps, j'ai l'impression, mais je crois que c'est cet été, j'ai essayé de le réécouter et il était pas disponible. Et ça, j'ai regardé, c'est pareil sur Spotify, Apple, etc. Bref, mais donc en tout cas, l'EP, moi je l'aime beaucoup, c'est 4 morceaux que vous pouvez quand même retrouver sur YouTube. Je vous invite évidemment du coup à écouter son dernier album, Playing Robots into Heaven. Et puis après, alors c'est vrai que on l'a évoqué, moi j'avoue que l'album Assume Form. Il est très bien parce qu'il est très pop, mais très, très efficace. Moi, j'aime beaucoup le premier album qui s'appelle juste sobrement James Blake, sur lequel il y avait eu une sorte d'EP supplémentaire qui était sorti, enfin une extension de l'album qui était sortie, dont un super morceau avec Bon Iver. Et à l'époque, je me disais, ah, tu vois, j'avais deux mecs que j'aimais beaucoup. J'ai fait, ah, ils matchent ensemble. Ouais, ok. Je valide totalement ce genre de collaboration. Et sinon, plus récemment quand même, il y avait l'EP Before qui était sorti en 2020, pareil, 4 morceaux, qui était pareil dans une ADN quand même plus électronique et plus rythmée, quoi. Et voilà, donc ça, moi j'aime beaucoup, donc je ne peux que globalement vous inviter à aller écouter toute sa discographie, mais c'est voilà, c'est des premiers jets comme ça, ouais. si vous voulez découvrir, si c'est pas déjà fait, quoi.
Tu me donnes envie de réécouter des vieux albums, du coup.
Bah, en fait, je trouve que ça a le mérite. Vraiment avoir. Tu vois, je sais qu'il y avait vraiment un ou deux albums que j'avais. Franchement, j'avais dû faire 2-3 écoutes, grand max, quoi. Et en fait, en réécoutant, je fais. Ah, il y a toujours quand même des très très bonnes choses. Et même ce qui est un peu mineur, ce qui justement, je trouve, peut être un peu mélancolique et tout. Bah, c'est quand même très très bien fait, quoi. C'est un mood, mais il n'y a pas à dire, il est fort, ce James Blake.
Super.
Voilà, je te propose qu'on passe au son d'après.
Eh bien écoutez, on va rester dans la mélancolie, puisque, je vous le dis, chers auditeuristes du son d'après, moi, en ce moment, ça va pas fort fort. Alors qu'est-ce que je fais quand ça va pas fort fort? Eh ben j'écoute des gens qui ont fait du son quand elles et eux n'allaient pas fort fort non plus. Alors aujourd'hui, je me dois de vous parler de celui qui m'accompagne dans mes rides en train, la tête posée sur la vitre et le regard dans le vide, j'ai nommé Sean. Sean, c'est un rappeur parisien de 25 ans qui a déjà plein de projets dans sa discographie. Discographie dans laquelle je me suis replongée récemment parce qu'il a sorti 3 nouveaux titres ces derniers mois qui m'ont happée dans leur bulle de mélancolie et d'introspection. Et même si lui et moi on n'a pas vraiment les mêmes problématiques de vie, sa musique m'accompagne très bien en ce moment. Et il est donc revenu en septembre avec un 2 titres, un an après son album Rester Prince. Je vous propose tout de suite qu'on écoute sa musique avec le titre Se laver de ses péchés, extrait de ce fameux 2 titres comme en 2004. On écoute.
J'ai besoin de me laver de mes péchés. J'ai 2 vies, ce jour je suis baisé. Je suis un zombie sur l'avenue, je suis un déchet. Elle est belle, elle est bonne, mais fait chier. Je vais dîner, abîmer comme Kenny. Ici tout le monde me croit faux comme Kenny. J'ai besoin de la vête, mes péchés. Traverser les montagnes enneigées. J'ai besoin de me laver de mes péchés. Nombreux gens qui changent dans mon champ de vision. Yeah. Nombreux sont les envies, fait la tissu. Chat du chat, j'me fais sucer sous un palmier. J'ai besoin de me laver de mes péchés, yeah. Faire ça, j'ai mon rave ou mon lèche, yeah. J'ai besoin de me laver de mes péchés, yeah. J'ai besoin de me laver de mes péchés. J'ai besoin de me laver de mes péchés. J'ai besoin de me laver de mes péchés. Amenez-moi une bassine, amenez-moi de l'eau. J'aurais des limites si t'étais encore là pour voir à quel point c'est le beau. Plus je me rapproche des montagnes, plus il fait froid dans le cœur des lions. Dieu est pour ceux qui l'aiment.
Ah, c'est quand je parle d'amour.
Abîmer mes pimpés comme si j'avais vidé un zingam sur les champs. On dirait que je suis pas de leur temps, que j'ai grandi à charner seul dans une grotte. J'ai vu leur regard se noircir à la minute où je maillais trop.
On écoutait « Se laver de ses péchés » de Sean. Qu'est-ce qu'en pense notre expert rap de l'émission ? Et surtout, Clément, est-ce que t'as déjà écouté Sean ou pas trop ?
Alors, expert rap, on va pas, mais oui, on va si. Dire ça, mais oui, j'en
de l'émission.
Écoute, j'en écoute de l'émission, bon, allez, voilà. On va dire ça. J'ai jamais trop écouté Sean, je vais pas te mentir. Je me souviens en plus avoir croisé, je crois, quelqu'un qui travaille pour son... dans le label, en tout cas... qui clairement travaillait pour lui à une certaine époque, qui m'avait dit grand bien de lui, je sais plus, mais c'était peut-être avant que sortent même les premiers projets. Enfin, mais non, en réalité, j'ai jamais trop écouté, donc c'était quand tu m'as dit que t'allais le ramener, bah, je me suis dit tiens, que ça allait être une bonne raison de le découvrir. J'aime plutôt bien, en tout cas, je trouve ça bien fait. Bon, ça me fait penser juste à beaucoup de choses qui sont déjà sorties. Pour moi, c'est vraiment du...
Ça m'intéresse de savoir à qui ça te fait penser.
Laylo, ah, à okay. fond, quoi. Pour moi, c'est du
Laylo 3000. C'était ça la voix que je cherchais.
Il y a des... Dans sa voix me fait penser, dans certaines intonations, certaines choses me fait penser, je pense, à d'autres noms, mais dont... que les noms ne me reviennent pas, là. Sinon, quand même, je trouve que le... Bon, et d'une part, en fait, c'est bien fait, tu vois ce que je veux dire, il n'y a pas à dire, et je sais que je trouve que là, dans la rap actuellement, tu sens vraiment qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants de Laylo, et il y en a aussi beaucoup, beaucoup, du coup, qui me saoulent, parce que vraiment, tu sens que, enfin, je trouve ça très, très creux, que c'est vraiment que des effets de style, trucs vraiment de déprime, on essaie de faire après bah, les trucs les plus bizarres possibles, ou les plus... mais qui vraiment ça que qui m'intéresse pas beaucoup. Là, je trouve que quand même il y a une je sais pas, il se dégage quelque chose que je trouve assez sincère et tout de sa musique, et je trouve que la production particulièrement sur ce morceau est en tout cas est bien léchée, bien travaillée, l'utilisation là, je trouve j'aime beaucoup le travail de l'utilisation de la sonnerie de téléphone. Là, tu sais, qui rythme la prod, voilà, du coup ça je trouve ça plutôt intéressant. Après clairement ça, tu vois, en l'écoutant, je me suis dit, ah putain, si je vais pas bien, ah ouais, je vais pas aller mieux en écoutant.
Ah bah non, on va pas mieux en écoutant, je vous le dis tout de suite.
Ah non, ouais, ça déprime quoi.
Ouais, bah clairement la prod est sombre, hein, on va pas se mentir. De mon côté, j'avoue, j'ai pas une grande analyse brillante à faire sur ce morceau en particulier. Moi, je l'aime beaucoup dans ce qu'il raconte, de où il en est dans sa vie et de sa solitude. Mais en effet, moi, ce qui me parle, c'est la prod, la musique, qui pose une sorte de, malgré tout, quand même, un petit bandage sur mon cœur en mode I'm not alone, tu vois. Et il y a des moments où ça peut me rappeler un peu la Heart Tape de La Fève. Alors, sans comparer leur manière de rapper ou leur voix, mais je trouve qu'il y a une espèce de lourdeur un peu similaire dans la fève, et ça me fait notamment penser, je pense, au morceau de clôture.
Dans les productions, je
trouve. Dans, ouais, dans la prod.
Au niveau du rap, je trouve pas.
Non,
mais
non, pas
ouais,
du tout. Dans la,
au niveau des
pas,
productions,
ouais, c'est
d'accord.
Ça, mais ouais. Dans ce que ça peut raconter, et dans l'outro, notamment de la Heart Tape, moi qui m'avait particulièrement marqué, pareil, par ce que la fève raconte dessus, et ouais, c'est, je sais pas, une espèce de fin d'innocence, un truc un peu. Je sais pas, qui m'avait touché quoi. Moi, j'adore la manière dont Sean triture sa voix et vraiment cette sombre production là, très trap au final, tu vois, dans plein de moments, mais aussi qui part dans d'autres choses. Il y a vraiment quelque chose dans la musique là qui résonne dans mes os et que je sais pas trop expliquer. J'ai juste le sentiment d'être tombée sur le bon morceau au bon moment.
Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire, ça.
Et
oui.
Notamment, en fait, ce morceau est donc combiné, c'est un deux titres, et j'ai dit le premier titre de ce 45 tours, parce que c'est un peu le cas, tu vois, genre c'est un deux titres, s'appelle Les oiseaux tombent du ciel, et ça dure 1 minute 12. Donc j'ai hésité à le ramener, je me suis dit c'est peut-être un chouïa court. Et en vrai, ça serait une parfaite introduction d'album. J'espère d'ailleurs que ça le sera, tu vois, j'espère qu'il est en train d'annoncer un prochain projet. Il y a une espèce de jolie montée en puissance sur ce titre avec un synthé et plein de voix un peu chorales qui s'harmonisent et qui s'ajoutent à sa voix où lui il pose très simplement sur la prod et qui pour une fois est pas genre ultra tiraillé, pleine d'effets. C'est très court et ultra efficace, ça m'a assez pris au trip aussi et je trouvais que les deux morceaux allaient très bien ensemble. Pour vous parler un peu plus de Sean, bah en fait il a commencé le rap très très jeune avec ses potes, il avait 12 ans je crois quand il sort ses... En tout cas quand il commence à rapper, après il a commencé à sortir des premiers sons quand il avait 16 ans je crois. Il a passé beaucoup de temps en studio, en fait il avait un pote de son père qui bossait, qui était probablement ingénieur du son j'imagine, et du coup il y a passé beaucoup de temps. On retrouve aucune trace bien sûr de ce qu'il a fait à l'époque. Aujourd'hui, il a fait un grand tri. Et le premier projet de lui qu'on retrouve en ligne, c'est l'EP Mercutio qui est sorti en 2019. Je trouve que cet EP, c'est vraiment le début de toute la DA de Sean. Et c'est là où je peux te rejoindre sur le fait de genre les enfants de Lelo. Et à la fois, je trouve que lui, il a vraiment des trucs à raconter. Et il a vraiment une DA qui est sensée et qui est pas... en mode comme Lelo, on va faire des trucs futuristes et machin, nan, nan. Lui, ouais, il est plutôt dans une espèce de recherche de dualité. Il parle beaucoup de sa part d'ombre, autant dans l'écriture que dans ses propositions vocales. Je disais qu'il triture ses voix et c'est notamment pour jouer là-dessus. Il y a beaucoup aussi d'alter ego, notamment avec le personnage de Mercutio par exemple dans ce premier EP, mais aussi dans le mythe du loup-garou dans le projet qui suit, qui s'appelle Moitié loup. Et là, dans la DA de Se laver de ses péchés et de Pourquoi moi, qui est le dernier single qu'il a sorti là en octobre, il est accompagné d'un dalmatien. Et du coup, dans les extraits de clips et sur les pochettes et tout, moi je me dis, bon, si j'ai envie de faire un peu de l'analyse de texte, tu vois, mais genre, ça me donne l'impression que il a peut-être plus assumé et fait la paix avec cette part d'ombre et que du coup, maintenant, elle est peut-être plus domestiquée, tu vois. Genre, avant c'était le loup-garou et maintenant c'est un dalmatien.
Le noir et blanc sont intégrés en une seule personne.
Et à la fois, il est avec dalmatien, lui il a les cheveux tu sais genre des bigous un peu noir et blanc, ça pourrait être Cruella à 8000 tu vois. Et je pense que d'ailleurs c'est important de parler de sa DA deux secondes parce que vraiment ça sent que le gars il a des trucs à sortir artistiquement autrement que par la musique. Là il a sorti des visuels pour les deux derniers singles je crois et c'est vraiment très beau. C'est que disponible, j'ai cherché sur YouTube, je pensais que c'était des extraits de clips et en fait non, c'était juste sur Instagram. Il a mis des extraits, ça doit durer je sais pas genre 1 minute 1 minute 30, donc il y a tout le morceau Les oiseaux tombent du ciel et là il a fait le début de l'intro de Pourquoi moi, enfin qui a un espèce de changement de prod et donc du coup c'est tout le début, c'est les premières 40 secondes je pense, je dirais. Et vraiment je trouve ça hyper beau et j'ai vraiment l'impression que il y a 1000 références que j'ai pas du tout, mais que lui il est vraiment dans une espèce de truc de je vais proposer un truc musical et visuel très cohérent. Et tu sens qu'il a, il a 25 piges, ça fait quand même 10 piges qu'il sort du son, qu'il a un peu compris comment fonctionne l'industrie de la musique. Tu sens qu'il a bien réfléchi à sa DA, à qui il est en tant qu'artiste, et que là, il va, j'espère, débarquer avec un nouveau projet qui va faire mouche. En tout cas, moi, je sais qu'il y a plusieurs personnes, pareil, qui m'en ont dit beaucoup de bien avant que j'écoute ce qu'il faisait. J'avais commencé à écouter un peu quelques trucs. Pour, du coup, prolonger l'écoute, je vous conseille forcément le titre Les oiseaux tombent du ciel et le dernier single Pourquoi moi. Dans les projets, j'aurais tendance à aller vers Mercutio, qui est un peu l'EP qui ouvre sa discographie, en tout cas de ce qu'il en a laissé sur Internet. Franchement, je crois que plusieurs personnes m'avaient déjà recommandé particulièrement ce projet-là, en me disant qu'ils avaient beaucoup d'affection pour, pour ce que ça racontait, etc. Donc je vous propose d'aller écouter ça. Et un autre projet qui s'appelle MP3 plus Wave, qui sort suite à un cambriolage de son studio. Ils se font voler la moitié de leur matos et ils décident quand même de sortir un projet avec les maquettes des morceaux qui étaient en cours. Donc c'est vraiment les derniers exports quoi, et moi personnellement je le savais pas avant d'écrire cette chronique, j'ai vu ça dans des interviews, moi j'avais juste écouté ça et j'avais kiffé et je crois que c'était un de mes projets préférés dans tout ce que j'avais écouté, donc je me dis n'hésitez pas à aller écouter celui-là si c'est ce qu'il fait en maquette, bon ça devrait aller,
oui,
pour
si
la
bosse
suite
un peu,
tu vois.
Ça ouais, ça voilà. Va le faire quoi.
C'est okay. Ça donc espérons qu'il sorte un projet bientôt du coup et puis
3 singles en 2023
je pense
ça, ouais. Y a moyen.
Oui, premier album l'année dernière, je pense qu'il a de quoi faire. Ça a l'air d'être un gros buté de studio, donc il doit avoir pas mal de trucs...
De matière à sortir.
Exactement. Donc voilà, j'espère que ça, Clément, ça t'a donné envie. Et que...
Ouais, bah, ça me donne d'autant plus envie d'aller écouter. Tu vois, je sais que pourquoi moi, j'ai vu passer plusieurs personnes le relayer, ouais. Et ils avaient l'air d'être convaincus. Donc allez, il n'y a plus qu'à.
Super.
Moi, je peux avoir tendance parfois... être un peu long au démarrage, qu'on sait que des singles,
ouais, je comprends.
J'aime bien écouter des projets.
Les deux projets dont j'ai parlé, il a sorti un album l'année dernière qui est très bien aussi.
Ok, et voilà. Allez, on va aller écouter tout ça.
Super, on passe au son d'après.
Et bien pour la suite de cet épisode, je vous disais il y a quelques semaines, je vous racontais que j'avais renoué pendant l'été avec la musique reggae. Et bien il se trouve que dans la foulée, alors que la rentrée approchait, j'ai poursuivi mes redécouvertes musicales avec un autre mastodonte de la musique, à savoir le zouk. Je suis donc actuellement en train d'essayer de rattraper un peu mon retard, mais autant être honnête, ouais, voilà, je pars de très très loin. Pour moi le zouk... c'est longtemps résumé à d'un côté de la musique de carnaval, et littéralement la musique que je devais entendre dans les kermesses, les mariages ou autres événements festifs, ou pour te faire danser, ça se résumait à les deux mêmes morceaux, à savoir Maldon de Zouk Machine,
ouais.
Et Zouk la CSL médicament nous nie de Kassav.
Mm-hmm.
Mais d'ailleurs même à l'époque je savais même pas que c'était Kassav, tu vois, c'était vraiment
oui.
Juste un morceau et pour moi vraiment de
oui
fête,
oui bah
quoi.
c'est les deux morceaux de Zouk que les
tout le temps
ouais c'est
qui
ça
passait tout le temps à tous les événements un petit peu tu vois
des années 90 non qui
ouais exactement ouais. Et sinon, de l'autre côté, c'était le Zouk Love et quelques morceaux de Sly, en fait, que j'ai beaucoup trop écouté au collège. Merci Anaïs, si tu passes par là. Et après ça, ouais, j'ai enfermé cette musique dans la case Zouk Love, qui globalement, pour moi, était de la musique sirupeuse à base de synthés les plus cheap au monde. Bref, un jeune homme plein d'a priori et à l'étroitesse d'esprit caractérisé. Cette méconnaissance du genre... s'est prolongé pendant de longues années et s'est dissipé en réalité il y a quelques semaines jusqu'à ce que je parte en vacances encore une fois avec mes chers amis Laurence et François dont j'ai déjà parlé ici et qui m'avaient fait découvrir le chanteur égyptien Amir Diab.
Ouais.
Et ben là bref, cet été on est en voiture en famille, tranquillou, et je sais pas pourquoi, mais il s'est passé vraiment un moment magique, peut-être un peu de recul et de maturité, j'ai envie de penser, ou tout simplement l'envie d'explorer de nouveaux horizons musicaux, mais ça m'a rendu ce moment totalement enthousiaste à l'écoute du morceau que je m'apprête à vous jouer maintenant. C'est un morceau très populaire de Zouk qui s'appelle Lanmoured du chanteur et batteur Batri Kremil. Le morceau est sorti en 1988. On écoute et je continue un peu de vous parler de Zouk. Journée, moi,
C'était Batterie Crémil et son morceau L'Enmour Red. Je me tourne vers ma binôme. Qu'en as-tu pensé ?
Ça défonce.
Eh, c'est ça qu'il faut écouter quand ça va pas, tu vois ?
Non, mais quand ça va pas, il faut faire une catharsis. Donc c'est on écoute des trucs tristes.
D'accord.
C'est ça qui se passe.
Bon, pour moi, j'écoute ça quand ça va pas. Tu vois, ça vient mettre un petit peu de soleil dans ma vie.
Très bien. Bah ouais, non, ça tue. Mais c'est marrant, on a eu la même période sans le savoir. Parce que moi aussi, j'ai écouté du zouk un peu cet été. Parce que justement, je pense écouter le podcast Zouk Vintage.
Okay.
Parce qu'il y a eu un moment donné cet été où je me suis dit, je veux réécouter des trucs qui me sortent de ce que j'écoute d'habitude.
Ouais, c'est ça.
Et j'avais Zouk Vintage depuis des plombes dans les podcasts auxquels j'étais abonnée. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais écouter Zouk Vintage. Et en fait, en écoutant Zouk Vintage, ils font toute l'histoire du zouk et ça a parlé de trucs hyper intéressants sur la politisation aussi du zouk et à quel point c'est vraiment un truc ancré aussi dans la culture en Martinique et en Guadeloupe. En écoutant ça, forcément, tu notes des refs, tu vas écouter des trucs. Et donc, j'ai notamment commencé à écouter un peu la discographie de Kassav From Start, donc depuis 79.
Ouais, c'est ça.
Et j'avoue que, bah, en fait, leur tout premier album à Kassav, c'était vraiment pas du zouk comme là on vient d'entendre, tu vois. C'était vraiment une espèce de mélange de funk. C'était hyper. Bah, c'était
parce que c'est pas considéré comme du zouk d'ailleurs.
C'est les précurseurs de ça, mais voilà. Et du coup, sur l'album d'après, il y a aussi plein de trucs. Enfin, c'est vraiment, c'était chambé. Moi, j'ai kiffé ce petit voyage dans la discographie de Kassav et j'ai pas du tout encore tout écouté parce qu'ils ont une discographie un peu infinie.
16 albums. 16
ouais,
albums
voilà.
De groupe et tu comptes les solos.
Les solos. Ouais, bon.
Exactement.
Donc ça prend un peu de temps. Mais en tout cas, ouais, chambé, je connaissais pas du tout cet artiste qu'on vient d'écouter, Batterie Crémil. Et franchement, bah ouais, ça tue, mais ça ne m'étonne pas. Voilà.
Ok, et bah tu vois, moi quand j'écoute ça, en tout cas je me dis qu'il est clair que quand j'étais plus jeune, je percevais pas tout le travail musical qu'il y a en fait derrière ces rythmiques. Je pense que ça c'est déjà le truc qui
ça,
est hyper...
Ouais, ça s'entend de fou.
Tu vois, je trouve un morceau comme ça, vraiment, tu vois, je trouve l'espèce de richesse musicale qui se cache derrière. Je pense que ce qui est pas étonnant à mon avis, qui fait que ça me parle plus aujourd'hui, c'est que les sonorités 80... Tu sais, c'est quand même pas mal revenu à la mode, en vogue, et tu l'entends d'une certaine manière. C'est pas la même chose que dans une certaine électro ou quoi, mais il y a quand même pas mal d'éléments quand t'écoutes qui sont très 80, tu vois. Le filtre sur la voix, il y a un truc dans le groove, en fait, de cette musique, tu vois,
Ouais, c'est des putains de musiciens, en fait, qui jouent ce genre de
exactement,
musique.
Exactement, c'est ça. Et puis, tu vois, il y a tous les éléments, richesse des instruments utilisés, la basse, la guitare, les trompettes. Mm-hmm. Là, franchement, les séquences de cuivre là-dessus, elles sont trop bien. Il y a, bien sûr, l'utilisation des chœurs. Bref, il y a toute une palette où je vois beaucoup plus de relief qu'avant.
Mais je pense aussi parce que... En vrai, à part les deux morceaux que tu citais au début, ce qu'on a écouté nous dans les années 2000, c'était quand même de la musique zouk faite pour les blancs en vérité, tu vois. Genre c'était une espèce d'adaptation du zouk, ça parlait plus créole, ça chantait amour et en vérité, je pense qu'il y avait ce truc de on va faire un truc pour la métropole pour que
qu'il n'y ait pas trop un écart.
C'est ça, que ça soit pas trop noir, tu vois. Genre, il y a une espèce de truc un peu comme ça, je pense. Et du coup.
Bon, et puis c'est vrai que le créole, c'est vrai que si tu le comprends pas, moi j'ai pas besoin en écoutant cette musique de la comprendre, mais.
Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, dans Kassav, par exemple, ce que j'apprenais dans Zouk Vintage, je sais pas si tu veux en parler ou si.
Non, j'ai pas prévu de faire une grande historique du zouk parce qu'il n'y a pas le temps et que même moi encore, j'ai pas eu le temps encore de totalement plonger là-dedans. Par contre.
J'aimerais quand même dire le truc que j'allais dire, c'est-à-dire que quand même dans Zouk Vintage, elle te raconte l'histoire de Kassav et à quel point en fait c'était aussi le fait de parler en créole, c'était hyper important pour eux dans justement la passation de la culture et le fait de se dire on a été colonisés mais on a quand même une langue qui est à nous et qui est importante pour nous. Et je pense que il me semble que c'est dans un des épisodes où ça parle de zouk et d'esclavage et de la mémoire de l'esclavage et ils en parlent vachement, notamment dans Kassav. Comprendre le créole et comprendre ce qu'ils disent, notamment dans les morceaux de Kassav, après je sais pas pour le reste, j'ai pas assez digué, mais il y a vraiment des trucs hyper politiques qui sont giga importants et que quand t'écoutes comme ça t'es en mode j'ai pas besoin de comprendre les paroles, alors qu'en fait ça dit des trucs hyper profonds quoi.
C'est hyper tout cas, moi, dans les quelques interviews que j'ai pu voir, et notamment bah, des fondateurs de Kassav, il y avait cette volonté de créer une musique antillaise, donc d'où effectivement la volonté de chanter en créole, qui parle de la vie des gens là-bas. Et effectivement, de la réalité aussi, de qu'est-ce que c'est que vivre aux Antilles, qu'est-ce que c'est qu'aussi justement les allers-retours avec la métropole, qu'est-ce que c'est que même l'exode en métropole, et que tout ça, effectivement, passe dans les paroles, mais c'est vrai que bah, si tu comprends pas le créole, et ben ça paraît être un truc un peu chatoyant comme ça. C'est d'ailleurs l'un des éléments, hein, je vais pas mentir, moi je sais que c'est aussi ce qui m'a fait plaisir de redécouvrir ça, c'est à quel point je trouve cette musique irradie la lumière, le soleil. En fait, je trouve que c'est une musique hyper généreuse, tu vois. C'est vraiment ça donne, c'est quand ça, oui, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais j'ai vraiment l'impression de recevoir quand j'écoute ça. C'est-à-dire ce truc de vas-y, en fait, je te transmets en tout cas une sorte d'énergie qui, je trouve, est bienvenue quand t'écoutes ça. Et je trouve que c'est pas si fréquent les musiques que je trouve aussi généreuses. En tout cas, c'est vraiment comme ça une question de ressenti. Par contre, ça m'interpelle parce que j'ai eu le même constat que toi, quand tu nous as parlé du compas la dernière fois. C'est que c'est tellement difficile de se renseigner, je trouve, sur ces musiques-là. Quoi. Je trouve que même des choses aussi simples que le nom là, de la chanteuse sur le morceau. Oui. Alors là, je prends dans l'extrême, je vais certainement vous passer que la première partie, mais dans la deuxième partie, il y a du coup une chanteuse, et donc c'est presque la moitié du morceau en fait.
Oui.
Impossible d'avoir le nom de la chanteuse.
Oui.
Donc ça, bon, alors il y a clairement un truc de sexisme, etc. Je pense qu'il joue là-dedans,
oui,
mais il y a aussi
très présent dans le hip-hop américain aussi.
C'est ça. Je pense qu'il y a aussi, de toute manière, un travail, tu sais, vraiment de transmission de cette culture où normalement aujourd'hui ces choses-là auraient dû être un peu réparées, mais parce que je pense que c'est plus loin de nous. Le travail en tout cas n'est pas effectué.
Non, mais en fait, je pense que c'est comme ce qu'on disait sur le compas la dernière fois, c'est-à-dire que en fait, nous, je pense, les sources qu'on cherche, c'est des sources qu'on a l'habitude de regarder entre guillemets, c'est-à-dire moi, je sais que pour regarder les paroles, en général, je vais sur Genius ou des trucs comme ça. Bah, c'est sûr que t'as pas les paroles de Kassav sur Genius.
Non, mais c'est même pas ça que tu vois. J'attends ça, mais pas typiquement. Là, j'ai même pas grand-chose à vous dire sur Patrick Rémil, alors que c'est comme j'ai vu globalement revenir que c'était quand même une figure assez importante de cette musique-là. Et ben, en vrai, les seules infos que j'ai eues, c'était la même dépêche reprise par plusieurs sites d'actualité antillaise fin octobre 2021, quand le chanteur est décédé à l'âge de 68 ans, tu vois. Et c'est tout, quoi. Donc, je sais qu'il fait partie d'un groupe qui s'appelle les Pédagogues. Dont il y a un album que vous pouvez retrouver sur les plateformes de streaming. Ouais. Un album, je ne sais pas s'il y en a eu d'autres ou quoi. Y a vraiment, je trouve, un manque là-dessus. Et ça me questionne parce que c'est quand même... Je trouve qu'il y a un travail de mémoire qui est à faire de ce côté-là, parce que dans la transmission de la culture de cette musique.
Qui est fait notamment par Zouk Vintage, par exemple. Vous pouvez vous abonner au compte Instagram, il y a plein de refs, et elle fait beaucoup d'historique de cette musique-là. Donc.
Et c'est trop bien, parce que je trouve que ce qui est en plus à rappeler, c'est que quand même, le Zouk... C'est français, c'est né en 84, créé par le groupe du coup Kassav. À l'époque, ils veulent du coup faire une musique antillaise qui va pouvoir s'exporter dans le monde entier. Donc c'est aussi vachement nourri de beaucoup d'influences de musique qui s'écoutait là-bas à l'époque. Hein. Tu parlais du compas, ça en fait partie, évidemment. Et ce que je trouve fou, c'est que quand même le vœu de s'exporter à l'étranger va totalement être exaucé. Le Zouk va voyager aux quatre coins du monde, beaucoup en Afrique, mais pas que. Je suis tombé sur des images assez dingues de Kassav dans les années 90 en tournée au Japon, devant une foule, tu vois, passionnée. C'est quand même assez anachronique, en tout cas moi dans mon esprit, tu vois, j'ai un peu halluciné devant ces images-là.
C'est des restats de fou, ouais.
Et voilà, Kassav, c'est aussi le premier groupe noir à avoir performé en URSS à l'époque, parce que c'était à l'époque.
Oui, c'est vrai.
Ça, c'est quand même fou. Et même rien qu'au niveau français, Kassav, c'est le groupe français qui s'est le plus produit à l'étranger. Et en 2009, c'est le premier groupe français à remplir le Stade de France. C'est quand même, tu vois, je trouve vraiment ma petite vision de de blanc, tu vois, un peu bourgeois, etc. Tout d'un coup, je fais, mais comment ça se fait qu'on n'en parle pas? Enfin, en tout cas, que tu vois,
que ça n'arrive pas à toi, en tout cas.
Ouais, que ça n'arrive pas à moi, en tout cas, c'est ça, tu vois. Parce que j'ai quand même l'impression que... que c'est un peu sous-coté quand même, tu vois, d'une certaine manière. Si t'as pas grandi, moi qui ai pas grandi, tu vois, dans une culture justement Bah, je pense soit antillaise, soit peut-être plus globalement afro, afro-culturelle. Et ben vraiment, moi je te dis, c'était les deux mêmes morceaux.
Oui, mais encore aujourd'hui. Hein.
Bah ouais, ouais. Mais c'est ça, voilà. Je te dis, c'est pour ça qu'en fait j'avais aussi envie de le ramener là. C'est parce que ça m'a interrogé sur la transmission qu'on a, même sur le respect, je pense qu'on peut mettre sur cette musique là.
Ce ah bah, je trouve, oui.
Mais je suis content quand même, du coup, d'avoir amorcé un petit peu ce truc là parce que. Kassav, j'ai l'impression en fait, d'en entendre parler depuis plusieurs années maintenant parce que c'est un groupe énormément cité par des artistes que j'écoute. Tu vois, et qui justement te disent en interview qu'ils écoutaient beaucoup de Zouk chez eux quand ils étaient plus jeunes. Mais sinon, moi, avant ça, avant de que tu vois, ça soit pas mal cité comme ça, voilà, c'était. Ça, je savais même pas que ça existait, même le morceau effectivement le plus emblématique, je ne savais même pas que c'était Kassav, quoi. Donc voilà, j'avais envie d'en parler parce que je pense que c'est. Que ça. Tout simplement, il y a beaucoup de choses à aller explorer. Et j'espère, du coup, avoir un petit peu éveillé cette curiosité d'aller écouter un peu plus cette musique et le bien, surtout, qu'elle procure. Mm-hmm. Pour prolonger l'écoute, du coup, j'ai pas 10 000 albums à vous recommander. Pour l'instant, effectivement, ça va certainement plus ressembler à des compiles ou à des playlists. Mm-hmm. Le premier, c'est du coup les plus grands succès de Patrick Rémil, qui était sorti en 2000. Et franchement, il y a... C'est vraiment ces pépites, c'est hyper, c'est chambé à écouter. Et moi, là, dans ce que je suis en train d'explorer, évidemment, il y a la playlist là que j'ai par exemple sur Apple Music qui s'appelle Kassav les Indispensables, où vous allez retrouver les plus grands succès, mais aussi justement, tu l'évoquais, par exemple, leur début. Et ouais. C'est très intéressant de voir justement la variété et les différentes musicalités qu'ils ont expérimentées au cours de leur carrière. Moi, j'aime beaucoup, je suis comme toi, c'est-à-dire que dans les premiers morceaux, un morceau comme Lague et Moins, je trouve ça incroyable, vraiment musicalement, c'est chamé. Voilà, je ne peux que vous encourager à aller explorer ça parce que c'est ouais, vraiment musicalement, c'est top quoi. Voilà.
Moi je rajoute du coup une dernière ref que j'ai cité 4 fois déjà, mais Zouk Vintage, le podcast et le compte Insta, parce qu'en fait le compte Insta est hyper actif, alors que le podcast, je pense vous allez avoir 3-4 épisodes sur la page Instagram. Il y a plein de refs d'albums, d'artistes, elle explique plein de trucs, enfin genre vraiment c'est hyper bien. Il y a des stories à la une, recommandations, hommages à des artistes, playlists, wiki Zouk, enfin genre vraiment il y a de quoi faire si ça vous intéresse de diguer le Zouk. Ce compte Insta et ce podcast sont très bien, et notamment moi le podcast, je trouve, pose des très bonnes questions entre musique, sociologie et politique qui sont assez intéressantes à creuser de mon humble avis.
Ok, et trop bien, et c'est une parfaite troisième recommandation pour aller explorer ce genre musical. Je te propose qu'on passe au son d'après.
Pour terminer cet épisode, j'aimerais vous parler de la chanteuse et productrice Sabrina Belaouel. Ça fait très très longtemps qu'elle est sur la liste des artistes dont j'aimerais parler et je n'ai jamais pris le temps de le faire.
Moi aussi, je suis d'accord. Voilà. Elle faisait partie de ma petite shortlist et
aujourd'hui, c'est le jour de la rédemption. Alors, Sabrina Belaouel, c'est une artiste franco-algérienne qui gravite dans la scène francophone depuis de longues années. Vous l'avez peut-être déjà entendue en featuring avec Gracie Hopkins, Jimmy Who, Ichon ou encore Jazzy Bass, pour ne citer que. Ayant grandi dans une maison où on écoutait beaucoup de musiques différentes, elle commence la musique très jeune à travers des cours de chant gospel pendant environ 5 ans. Elle se tourne ensuite vers la batterie, la guitare, la basse. Adolescente, elle forme un groupe de punk rock avec des amis à elle. Musique qu'elle découvre lors d'un voyage en Angleterre et qui la fascine complètement. Elle se dit mais il crie à ma place, c'est super. C'est genre, je pense qu'il y a un truc d'adolescence avec le punk qui doit être très intéressant. Et puis plus tard, elle rejoindra le collectif The Hop, où elle côtoie une grosse partie de la scène rap de l'époque, SPM, Jazzy Bass, 1975, etc., etc. Et c'est d'ailleurs sur le label de SPM, Orfèvre, qu'elle sort son tout premier projet qui s'appelle Shake, je ne sais pas si je le prononce correctement, en 2016, qui est un 3 titres chanté en anglais, très R&B. Elle a sorti depuis 3 EP et un premier album, Al-Adr, je sais pas si je vais encore mal prononcer, je suis désolée, je ne sais pas parler arabe. Dans ses différents projets, tu la sens grandir musicalement et déployer ses idées. Ces dernières années, elle a fait ses armes à la production musicale et elle développe un son particulièrement hybride, inspiré de plein d'univers musicaux. C'est passionnant à écouter et je vous propose qu'on prenne le temps d'écouter un extrait de ce dernier album. Le titre s'appelle Ja.
Il me dit grimpe dans ma voiture, bébé je suis fait pour toi. Au fond me rassure, mais j'aime pas son cinéma. Je lui dis que je ne suis pas vraiment sûre, je suis pas
Sabrina Belawel avec le titre Ja. Je me tourne bien entendu vers mon co-host Clément, qu'est-ce que tu en as pensé ?
Eh bien, très bon choix de morceau parce que, comme je disais aussi, moi, cet album particulièrement, là, le dernier, j'ai pas mal écouté.
C'est le seul, hein, faut le savoir. C'est le premier album qu'elle a sorti. Elle a sorti plein d'EP avant, mais c'est le
d'accord,
premier.
D'accord, oui, tu vois, c'est ça. Parce qu'en fait, Sabrina Belawel, je la suis effectivement depuis un moment maintenant. Je pense que je la découvre il y a, je crois, autour de 2015-2016 avec Jazzy Bass. Je crois que c'est là où je dois l'entendre pour la première fois. Et depuis, j'ai très régulièrement, en tout cas, suivi les projets avec des trucs qui m'ont plus marqué que d'autres. Mais particulièrement, cet album-là m'a grave enthousiasmé. Tu vois, le titre que tu as choisi, je suis parfaitement d'accord parce que je pense que c'est l'un de mes morceaux préférés. Et ce que je trouve intéressant avec Sabrina Belawel, c'est que je crois que j'aime encore plus là depuis qu'elle développe une identité plus électronique. Qui vient donner, je trouve, une autre dimension, une profondeur et une originalité à sa musique que je connaissais pour être avant essentiellement du R&B, mais là je trouve que ça vient vraiment rajouter un truc plus puissant en fait. Et je trouve que c'est parfaitement illustré justement sur ce premier album.
Et je pense que c'est parce qu'elle est devenue productrice.
Certainement.
Voilà.
Voilà, donc j'aime bien, et puis après voilà, je suis curieux de voir ce que tu as à en dire, mais ouais, ce mélange électro et tout en gardant, parce que tu sens bien quand même, notamment ce morceau-là
base,
est très bien choisi, la base est quand même très R&B dans ce que ça veut, ce que ça veut faire ressentir, mais la production, je trouve, c'est pas comme si ça step up, pas si c'était que du R&B, mais ouais, ce mélange des genres,
ça lui donne une identité quoi. Musicale. Oui, voilà, je suis d'accord. Mais c'est ce par quoi j'allais commencer ma chronique, c'est qu'en effet, je trouve que ce titre retranscrit extrêmement bien l'identité musicale de Sabrina Belawel, tout en faisant un peu, je trouve, un pas de côté sur ce qu'elle fait, qui est quand même habituellement chantée en anglais. Depuis quelques années, elle chante en anglais, en français, en arabe, ça dépend selon le mood, mais c'est vrai que c'est quand même majoritairement en anglais. Et je trouve que c'est un bon moyen de vous faire découvrir sa voix et la manière qu'elle a de la triturer. Elle change d'octave dans le refrain, elle met des ad-libs un peu bonibananiens ou varnichiens. Et elle met souvent beaucoup d'effets aussi, d'autotune, d'autres trucs sur sa voix. Et musicalement, je trouve que ce titre a la force des morceaux où il se passe tout et rien à la fois. Au premier abord, ça peut paraître assez simple. Petite mélo, grosse basse bien ronde et quelques percussions. Et pourtant, il se passe plein de choses, ça change de type de percussion, ça change les sons des synthés, elle ajoute plein de bruitages. Quand elle parle de voiture, il y a un bruit de porte qui claque, une voiture qui démarre, des dérapages, des accélérations. Moi, c'est le genre de truc que j'adore, tu vois, c'est le petit côté cartoon qui est très cool.
Ouais, c'est cool, et puis ça vient rajouter des petits, je sais pas,
des temps forts,
la vie, exactement, des temps forts au morceau.
Et je me faisais la réflexion, dans le morceau de Sean juste avant, c'est la même chose en fait, il y a plein de petits bruitages selon ce dont il parle, et je me suis dit que ça allait rapprocher un peu tous les deux, et quand même tout le long t'es accompagné par la même basse qui forme un peu la fondation du titre et qui ancre le morceau vachement, je trouve. Et bien sûr, bah en fait, ce morceau, c'est un peu une excuse pour vous parler en effet de son album dont est extrait le titre, donc Al Hadr, et elle produit en fait les démos un peu en isolation, et ensuite elle va s'entourer de ses amis musiciens pour y amener d'autres choses, notamment par exemple Bonnie Banane sur l'écriture de certains titres, notamment celui-là, ce qui peut me paraître pas très étonnant, parce que je trouve que dans la manière de faire les adlibs ou de faire des espèces de questions-réponses, il y a un truc très Bonnie Banane dans ce morceau. Elle s'entoure aussi d'artistes comme Lubinsky, Monomyth, qui a aussi fait des trucs avec Bonnie Banane, ou encore Basil pour les arrangements. Et dans l'expérimentation, elle peut me rappeler une artiste comme Tierra Whack, dont je vous ai déjà parlé ici. Il y a quelque chose vraiment de la libération et de la déconstruction des limites qu'imposent les genres musicaux dans lesquels elle a fait ses débuts, notamment le R&B, en effet, on en parlait. Et c'est encore plus parlant chez elle, je trouve, depuis qu'elle est productrice et qu'elle va vraiment piocher dans toute la diversité de ce qu'elle écoute. Dans cet album, c'est très explicite. On l'entend faire des interludes parlées sur certains morceaux, notamment Shop. Il y a aussi une énergie très club sur des titres comme Period, Point Break ou Eclipse. Mais on va aussi retrouver de la folk, avec une guitare acoustique sur le morceau Clémence, et une guitare lancinante, presque rock progressif, sur Goodbye avec Bonnie Banane, qui est en featuring. Elle s'est laissé le temps d'expérimenter et de tester. Il y avait des titres qui préexistaient déjà avant qu'elle travaille vraiment sur la construction de l'album, notamment le morceau avec Bonnie Banane qui clôt le disque. Et du coup, forcément, pour prolonger l'écoute, je vous invite à aller écouter ce disque, Al Hadr, pour sa force d'expression, je dirais, d'expérimentation et de la diversité des arrangements. C'est vraiment un disque qui me fait attendre la suite de sa carrière avec impatience. Je trouve que vraiment, c'est comme un checkpoint où tu te dis c'est bon, elle s'est trouvée et la suite ça va être zinzin quoi. Dans les autres recommandations, je voudrais vous recommander le titre Piché avec Gracie Hopkins qui fait probablement partie des titres où elle est en featuring que j'ai le plus saigné de ma vie. J'adore ce morceau. Et en tant que R&B stand, je me dois de vous dire d'aller écouter l'EP Libra qui est sorti en 2020, qui a vraiment rien à envier aux stars américaines du R&B contemporain. Il est délicieux et c'est parfait, parfait, parfait. Voilà, c'est tout pour moi et pour la présentation de Sabrina Belaouel. J'espère que ça vous a donné envie.
Ouais, bah, en tout cas, moi, je te rejoins là-dessus sur ce que tu disais parce que c'est intéressant de voir comment, bah, c'est vrai que les premiers morceaux qui sortent sont 2015-2016, quoi.
Ouais.
Et de voir le temps finalement que ça a pris, tu vois, ou ouais. Comme tu dis, à force d'expérimentation,
et tout, ouais.
Tout à fait. Et là, ça annonce vraiment le meilleur parce que cet album fait partie des, effectivement, je trouve des très bons albums, ouais, que j'ai écouté cette année.
J'espère avoir l'occasion de la voir en live car ouais, je pense que ça doit être très chouette. J'espère, chers auditeurs, que cet épisode vous a plu, que vous avez aimé certains ou tous les morceaux que vous avez écoutés aujourd'hui. Et Clément, on se dit
à dans deux semaines.